des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, nous sommes tous des poussières d'étoiles, car tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés au centre d'étoiles mortes il y a plusieurs milliards d'années. Poussière d'étoiles, c'est le titre d'un des premiers ouvrages d'Hubert Reeves, le troisième très exactement, paru en 1984 aux éditions du Seuil, réédité en septembre 2008, actualisé et augmenté. Hubert Reeves, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous enchaînez les conférences, les spectacles, alors merci de passer un peu de temps en notre compagnie. Faut-il le préciser, vous êtes astrophysicien, vous avez été conseiller scientifique à la NASA pendant les années 60, directeur de recherche au CNRS. Vos travaux de recherche portent notamment sur l'origine des éléments chimiques, l'origine du système solaire, l'origine de l'univers, l'astrophysique nucléaire et la cosmologie. Vous avez réalisé ces travaux dans le cadre du service d'astrophysique de Saclay. Aujourd'hui, vous êtes professeur associé au département de physique de l'Université de Montréal et président de la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage. Nous y reviendrons à la fin de cette émission. Dans votre préface Poussière d'étoiles, Hubert Reeves, vous écrivez que c'est à partir des années 70 que vous vous êtes intéressé à la vulgarisation scientifique, au travers notamment d'explications données à des curieux lors des nuits étoilées de l'été. À ce moment-là, vous avez l'idée d'écrire un livre avec de nombreuses photos à l'appui pour raconter l'histoire de l'univers. Et ce sera votre livre « Patience dans l'azur » publié dans de nombreuses langues. Est-ce que le public que vous avez rencontré à vos débuts, curieux, mais pas forcément expert en la matière, a changé depuis les années 70, Hubert Reeves?
Oui, ça a été ma grande surprise de découvrir la popularité et la grande demande de ce sujet. J'ai commencé avec des petits groupes de vacanciers et j'étais étonné de voir jusqu'à quel point ces gens étaient intéressés, posaient des questions. Quelquefois, on s'attardait jusqu'au matin en regardant le ciel pour voir un petit peu ce qui se passait. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est intéressant, regarde, tu devrais écrire ça. Alors j'ai écrit ce livre dont vous avez parlé, qui s'appelle « Patience dans l'azur ». Et puis il a fallu trouver un éditeur. Ça n'intéressait personne. J'ai vu 30 éditeurs, ils m'ont dit, l'astronomie, c'est pas vendeur.
C'est pas vendeur.
Ça n'intéresse personne. J'allais mettre ce livre dans mes tiroirs en me disant, si personne n'en veut, ben tant pis. Lorsque j'ai fait la rencontre du Seuil et de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui dirigeait une collection qui s'appelait « Science ouverte ». Et le but de cette collection, c'était pas simplement de faire de la science, mais de la faire de la science, des livres de science au travers desquels on devinait qu'une personne était là. Il fallait que la personne de l'auteur se fasse sentir. Ce n'était pas des précis d'astronomie, des précis de géométrie. C'était un homme vit une carrière de scientifique et essaie d'en parler. Et donc, il a accepté de me publier et ça a marché très bien. Et là, s'est passée cette curieuse de chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que je suis devenu progressivement ce qu'on dit médiatique. C'est-à-dire que moi qui voyais ma vie dans un laboratoire, dans un observatoire, dans un groupe fermé de scientifiques, tout d'un coup, les gens me reconnaissaient dans la rue, on m'invitait à la télévision, on m'invitait à la radio, invité à écrire des articles. J'ai été projeté dans ce monde médiatique. À ma grande surprise, je n'étais pas mécontent, naturellement, parce que je pensais que je découvrais qu'il y avait là une grande demande. Les gens étaient en demande de savoir un peu ce qu'on savait, ce qui se savait, ce qui se sait progressivement sur l'univers. Mais la plupart des gens que je rencontrais avaient l'idée qu'ils n'étaient pas vraiment assez intelligents pour comprendre tout cela. Donc, tout d'un coup, ils me disaient, mais là, tout d'un coup, on vous écoute et on comprend. Et ça nous fait doublement du bien, d'une part parce que c'est des choses qui nous passionnent. Qu'est-ce que l'astronomie nous apprend sur l'univers, sur le passé de l'univers, sur les étoiles, sur les galaxies, toutes ces choses extraordinaires. Mais il me disait aussi, mais ça nous fait du bien parce qu'on se dit, mais je ne suis pas si bête que je pensais. Je suis capable de comprendre. Et ça leur donnait une espèce de nouvelle confiance en eux. Et ces deux éléments m'ont paru des éléments très intéressants, ce qui m'a amené progressivement à faire, j'ai toujours continué à faire de l'astronomie, de la recherche et tout ça, mais en même temps à me sentir dans une position où c'était pour moi comme un devoir agréable, bien sûr, mais un devoir agréable de dire aux gens, d'apporter aux gens des connaissances, ce qui était obtenu par les connaissances scientifiques. Parce que je considère que les scientifiques, évidemment, les recherches sont payées par les gouvernements, donc par les taxes, donc par tout le monde, et qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un retour d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens qui s'intéressent à ce qui se fait en astronomie, ont le droit, nous avons le devoir de leur renvoyer l'ascenseur en leur disant « Voilà ce que nous avons appris, voilà ce que tel nouveau projet nous a appris » et essayer de leur dire d'une façon compréhensible pour eux. Donc pour moi, c'est à la fois un devoir parce que nous sommes payés pour faire de la science et puis c'est aussi un plaisir. Donc c'est bien quand les choses qui sont des devoirs sont aussi des plaisirs.
Encore faut-il avoir le talent de pédagogue, talent que vous avez, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de vulgariser ses propres connaissances parce que l'astronomie, comme d'autres disciplines scientifiques, c'est très très pointu. Et c'est d'ailleurs à l'image que le grand public peut avoir, là moins maintenant grâce à vous notamment, mais c'est vrai qu'on a cette image de chiffres, de mathématiques, de physique, un peu obtus.
Oui, ça, je dirais que ça s'apprend sur le tas. On n'apprend pas à faire cela, on le fait, on fait des erreurs. Les gens vous disent, ben là, je ne comprends rien. Alors, vous reprenez en essayant d'utiliser des métaphores, des analogies qui sont toujours valables jusqu'à un certain point, mais bon, il faut toujours un peu court-circuiter les choses. Et puis, progressivement, on découvre ce qui passe. Très souvent, je demande aux gens, je dis, là, si je t'explique ça comme ça, est-ce que tu comprends? On me dit, non, je ne comprends pas. Et si je l'explique comme ça, ah, ben là, je commence à comprendre un peu mieux. Donc, on retient ces façons de penser et on apprend où les gens bloquent. Par exemple, il y a systématiquement des passages où les gens font des mauvaises compréhensions. Donc, quand on le sait, il faut passer plus de temps à dire, attention, n'interprétez pas cela comme cela, c'est pas cela, c'est autre chose. Ça finit par venir, mais c'est un métier. C'est un métier qui est relié, à la question suivante. Il faut toujours que vous soyez dans la tête des autres. C'est-à-dire, vous vous dites, si je dis tel mot, est-ce que cette personne qui est là sait ce que veut dire ce mot? Si vous ne vous demandez pas cette question, si la personne ne le sait pas, vous avez trois chances. À la troisième, elle pense à autre chose. Elle zappe, comme on dit, comme à la télévision. Donc, il faut toujours être présent à se dire, est-ce que ce que je dis là est au bon niveau? Est-ce que la personne comprend? Et ça se voit. Les conférences sont très utiles pour cela. Je vois dans les yeux des gens.
Vous allez voir si dans l'assemblée, il y a des gens qui
ne suivent plus. Si ça chuchote, si ça fait du bruit, ou au contraire. Et il m'arrive même de baisser la voix pour voir si les chuchotements baissent. Et là, je sais que les gens suivent. Et puis tout d'un coup, je dis une phrase et alors je reviens en arrière. Les conférences sont comme des happenings. Vous êtes devant un groupe de gens, c'est quelque chose de nouveau, ça ressemble à un concert de jazz. Et vous êtes là devant un groupe de gens qui sont venus parce qu'ils pensent qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous dites, ben, j'espère qu'ils vont réussir. Et ça se déroule comme ça. C'est une forme de happening que j'aime beaucoup faire, en fait.
Alors, levons la tête au ciel, si vous le voulez bien, et dressons autant que possible une histoire de l'univers, histoire que vous n'avez jamais cessé de raconter. Il y a 14 milliards d'années, il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang, d'où naît donc le chaos initial, et il y a une quantité de particules qui s'agrègent petit à petit pour former des systèmes complexes. Ces quelques milliards de particules étaient donc des quarks, des photons et des électrons. Alors, est-ce que c'est la gravité qui, petit à petit, a mis un peu d'ordre dans ce que vous appelez, vous, une grande purée?
Oui, alors il y a, dans la nature, il y a quatre grandes forces ou interactions. On dénombre quatre, il y en a peut-être plus, mais pour l'instant, On en dénombre quatre. Vous avez parlé de la gravité, bien sûr. La gravité s'exerce à de très, très, très grandes distances. C'est elle qui tient en équilibre les galaxies, les étoiles, les planètes. Il y a la force qu'on dit électromagnétique ou électrique. C'est celle que vous sentez si vous mettez le doigt dans une prise de courant. Vous allez voir que ça se sent. C'est cette force qui est la force qui contrôle la chimie, la lumière, la physiologie, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, toutes nos réactions vitales, digestion, respiration. Et puis, il y a deux forces nucléaires qu'on a découvertes au XXe siècle. La force nucléaire forte, celle qui est derrière les bombes atomiques ou les réacteurs. Et puis, il y a la faible, celle qui interagit plus faiblement, mais qui est importante aussi. Alors, ces quatre forces, l'image qu'on se fait, c'est toujours des images hein, du début de l'univers. D'abord, quand on dit l'univers a débuté à ce moment-là, évidemment, dans l'esprit des gens, ils se disent qu'est-ce qu'il y avait avant. Si bien vous dire tout de suite, on n'en sait rien. Ça fait partie des grandes questions. Il faut dire que l'astrophysique est pleine de grandes questions et que beaucoup de choses, nous n'avons aucune réponse. Ce qu'on peut dire, en quel sens peut-on parler d'un début de l'univers? On peut dire que c'est un début parce que c'est un peu comme un horizon. On n'a rien, on n'a aucune indication qui nous dit quelque chose de ce qu'il y avait avant une date que l'on situe. 14 milliards, aujourd'hui, c'est un peu plus précis, j'ai vu le dernier chiffre, 13,72. Vous voyez, ça commence, c'est assez précis. 13 milliards, 720 millions d'années. On n'a aucune indication au-delà de cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'il y avait autre chose avant. C'est comme quand vous êtes au bord de la mer. Vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon. Vous n'en déduisez pas que la mer s'arrête parce que vous ne voyez pas d'eau au-delà. Vous dites simplement, c'est juste ce que je peux voir. À un moment donné, si vous montez sur la colline, vous en verrez un peu plus. Et bien de la même façon, avec nos nouveaux instruments, ce nouvel accélérateur qui est en train d'entrer en opération à Genève, au CERN, les grands télescopes qu'on vient de lancer, Planck, Herschel, vont nous apprendre des choses nouvelles et peut-être, personne ne sait, nous permettront-ils de reculer un petit peu plus. Il y a déjà plein de scénarios qui ont été faits de spéculations, mais en science, une spéculation n'est vraiment intéressante que lorsqu'elle est appuyée par une observation. Autrement, c'est de la science-fiction. La science fonctionne comme ça. Ce qui est fondamental, c'est l'observation. On peut faire des dizaines de théories sur ce qui s'est passé. L'observation est ce qui décide. Ce qui dit, ben, telle théorie est en accord avec les observations, telle autre ne l'est pas, on l'oublie. Aussi belle qu'elle soit. Des fois, on dit, ah, quel dommage, cette théorie était si belle. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'une théorie soit belle pour être vraie. Quelquefois, celle qui est vraie, c'est-à-dire celle qui est en accord avec les observations, là aussi, le mot « vrai », il faut y faire attention, on n'est pas dans une vérité type religieux, éternelle, révélée. On est dans une plausibilité, compatibilité. Cela semble être ce qui paraît le plus en accord avec ce qu'on observe. Et là, on a donc cette exploration. On peut dire que l'astronomie, moi, c'est ce qui me passionne dans l'astronomie. Moi, je suis plutôt historien. Ce que j'aime, c'est de raconter des histoires. J'avais une grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires. Et j'ai commencé à étudier la science justement parce que ça m'intéressait, parce que je me posais des questions sur l'histoire. D'où vient la Terre? D'où vient le système solaire? D'où vient la Lune? D'où viennent les éléments chimiques? Et progressivement, au cours du 20e siècle, auparavant aussi un peu, mais surtout au cours du 20e siècle, nous avons appris des quantités de choses sur le passé. Nous sommes des explorateurs du passé. Nous sommes comme des préhistoriens qui essaient de voir où vivaient les êtres humains il y a 20 000 ans, il y a 200 000 ans, retrouver des fouilles, tout ça. Nous reculons dans le passé et nous essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers pour que l'univers aujourd'hui soit ce qu'il est. Quels sont les événements marquants qui ont marqué le début de l'univers pour qu'il ait les propriétés qu'il ait aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéresse, et quand j'ai commencé d'ailleurs mes recherches dans les années 50, la théorie du Big Bang, qui est la théorie la plus populaire, la plus généralement adoptée aujourd'hui, n'était pas du tout créditée. Elle était créditée comme un peu sulfureuse, ça faisait un peu biblique, vous voyez, qu'est-ce que c'est cette histoire de cette grande explosion, ça ressemble à ce que vous retrouvez dans les traditions chinoises et autres. Et ça met beaucoup de temps avant que les physiciens se rendent compte que cette théorie, beaucoup disaient, elle est inacceptable sur le plan philosophique. Moi, je n'ai jamais compris ce que la philosophie avait à voir avec les théories. Je pense que si la philosophie n'est pas d'accord avec les observations, il faut changer la philosophie et non pas les observations. Les observations sont ce qu'elles sont et c'est à la philosophie ou aux penseurs de s'y adapter. Mais progressivement, on a découvert que cette théorie du Big Bang était celle qui avait le plus en accord avec toutes les observations que l'on faisait. Ça, c'est indispensable.
Vous avez parlé des galaxies. Venons-en aux galaxies, si vous le voulez bien. Les galaxies, j'imagine, sont en nombre infini. On ne connaît pas tout.
Ça, c'est encore parmi toutes les questions. Nous savons combien nous pouvons en dénombrer. C'est à peu près 100 milliards. Mais là aussi, nous en voyons jusqu'à un horizon au-delà duquel nous ne voyons pas. De sorte que, est-ce que ces 100 milliards de galaxies de ce que nous appelons l'univers observable, ça veut dire qu'on peut l'observer, est-ce que ces 100 milliards de galaxies ne sont tout l'univers ou ne sont qu'une partie infime de l'univers? C'est la même question que quand vous êtes au bord de la mer, vous vous dites, vous n'avez pas le moyen de savoir combien il y a d'eau dans l'océan, simplement à regarder jusqu'à l'horizon. Alors là, il y a plusieurs, ça se discutait déjà du temps des Grecs, c'est une vieille histoire, l'univers est-il infini? L'univers est-il infini? À ce moment-là, on se disait, est-ce que le nombre d'étoiles est infini? Bon, on ne connaissait pas les galaxies, ça se repose au niveau des galaxies, est-ce que le nombre de galaxies est infini? Alors là, nous avons des indications faibles, et contradictoire. Ça, c'est souvent l'état en science. Il y a une indication qui dirait plutôt du côté de l'infini, d'autres plutôt pas du côté de l'infini. Vous voyez qu'on est vraiment... Ça, c'est parmi tous les problèmes que l'on ne connaît pas, que peut-être le satellite Planck va nous faire progresser. Je doute qu'il nous apporte une réponse à cette question, mais on ne sait jamais. On a des fois d'heureuses surprises.
Alors, on connaît notre galaxie avec maintenant ce qu'on appelle les 8 planètes du système solaire, puisque c'est Pluton, hein, on l'a mis de côté.
C'est devenu une planète naine.
Une planète naine. Donc, il y a cette galaxie-là, la nôtre. Et mais on peut observer, nous, la galaxie d'Andromède.
À l'œil nu.
À l'œil nu.
Vous l'avez déjà vue.
Ah oui.
Ah, très bien.
Donc, on peut observer cette galaxie. Alors, bien sûr, il faut avoir un ciel
clair. Un beau ciel clair, loin des lampadaires et des lumières des villes.
Cette galaxie d'Andromède fait-elle partie des galaxies à spirale, galaxies elliptiques ou galaxies irrégulières?
Eh bien, elle semble bien spirale, elle semble bien voisine de la nôtre.
De la nôtre.
C'est-à-dire un noyau central avec des bras spiraux bleutés qui s'étendent loin dans l'espace. On étudie beaucoup, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a une autre petite galaxie. Bon, ça fait partie des études contemporaines. Mais c'est une très belle galaxie qui est à, comme vous savez, 3 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que quand vous la regardez, vous
on
la voyez telle qu'elle était
avant.
Il y a 3 millions d'années. La lumière a mis 3 millions d'années à vous arriver. Et c'est une des plus proches, en fait, c'est la seconde plus proche. Enfin, il y a des deux nuages de Magellan dans l'hémisphère sud qui sont un peu plus proches, mais c'est... Il n'y a que 3 galaxies visibles à l'œil nu, c'est les nuages de Magellan dans l'hémisphère sud et Andromède dans l'hémisphère nord.
Alors justement, vous parlez du nuage de Magellan qui est une galaxie irrégulière, qui est une pouponnière à étoiles.
Extrêmement active.
Parce qu'il y a beaucoup de gaz.
C'est une des régions les plus actives de notre galaxie, active dans la formation d'étoiles. Parce qu'il faut savoir que la formation d'étoiles se poursuit un peu partout dans l'univers. Il y a chaque année en moyenne dans notre galaxie 3 nouvelles étoiles par année. C'est la moyenne. La galaxie des nuages de Magellan en a plus parce qu'elle a plus de gaz résiduel, donc plus d'activité. Et puis nous avons des galaxies qui sont extrêmement actives, qui en font des milliers par année. C'est une des grandes propriétés de l'univers que de former continuellement de nouvelles étoiles. C'est un des grands sujets d'étude des télescopes que de trouver ces pouponnières d'étoiles qui sont des spectacles fabuleux, avec des lumières, des couleurs fantastiques.
Je vous propose de marquer une courte pause, Hubert Reeves. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Canal Academy vous propose de retracer les migrations des hommes préhistoriques. Comment et pourquoi les hommes fossiles sont-ils passés d'un continent à un autre? À partir de quand parle-t-on d'hominidés et non plus de primates? Réponse en compagnie d'Henri de Lumley, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Ce préhistorien mondialement connu nous livre un exposé passionnant dans notre émission Éclairage, émission en libre téléchargement sur Canal Academy.
suite de notre émission en compagnie d'Hubert Reeves, dans cette deuxième partie d'émission, Hubert Reeves, venons-en au quasar. Quasar qui veut dire quasi-star. Et alors ce sont en fait de fausses étoiles. On pense que ce sont des étoiles parce qu'elles brillent beaucoup et en fait ce sont des galaxies.
Oui, je vais vous raconter parce que j'étais même présent le jour où ce concept est né. C'est qu'on voyait dans l'espace, dans une galaxie, un point extrêmement brillant, mais un point. Donc on s'est dit, c'est une étoile, donc it's a star. Et puis on s'est aperçu, quand on étudiait la lumière qui en parvenait, que ce n'était absolument pas la lumière telle qu'on l'attendait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le spectre de l'hydrogène, de l'hélium et tout ça. C'était complètement... on ne comprenait rien. Donc on a dit, on l'appelait quasi-star, quasi-star, parce qu'on se disait, ça, l'aspect d'une étoile, parce que ce n'est pas nébulaire, ce n'est pas comme une galaxie, ce n'est pas étendu, c'est ponctuel, mais pourtant, ce n'est vraiment pas une étoile, parce que l'analyse de la lumière ne correspond à rien de ce qu'on connaissait. Et il y a eu un chercheur américain qui a dit, imaginons que ce soit une étoile, un objet céleste, tellement loin que l'expansion de l'univers est complètement brouillée son spectre. Ça, c'est une très grande intuition. Et c'est ce qui est arrivé. On s'est aperçu qu'on retrouvait bien les éléments, mais complètement mélangés, à une condition, c'est de supposer que pour être aussi brillant qu'il l'était, il fallait qu'il soit plus brillant qu'une galaxie, quelquefois plus brillant que 1000 galaxies, c'est-à-dire l'équivalent d'un trillion d'étoiles. Et donc, ça s'est devenu un quasar ou un quasar, selon le cas, qui est un des objets du bestiaire des astrophysiciens maintenant, très étrange. Et nous avons découvert à cette occasion que cet objet était situé au centre d'une galaxie et qu'en fait, toutes les galaxies, y compris la nôtre, ont en leur centre un quasar. Ce quasar est composé d'un trou noir. Vous voyez qu'on est dans tout l'exotisme imaginaire. Il n'y a pas un romancier qui a jamais imaginé quelque chose d'aussi délirant qu'un trou noir. Alors, qu'est-ce que c'est un trou noir? Eh bien, je vais vous dire la recette. Comment on peut fabriquer un trou noir? Imaginez que pendant la nuit, on a un malin génie qui a de très grandes mains et qui prenne notre soleil. Notre soleil, il fait à peu près 1 million de kilomètres. Imaginez qu'il écrase le soleil dans ses grandes mains jusqu'à ce qu'il n'ait plus que 3 kilomètres de diamètre. 1 million à 3. À ce moment-là, cet astre sera tellement dense, tellement compact, que même la lumière ne pourra plus s'en échapper. La lumière qui est attirée par la gravité sera si forte que la lumière va retomber comme l'eau des fontaines. Vous voyez, elle va essayer de s'élever, elle va retomber comme l'eau des fontaines. Donc, vous ne le verrez plus. Vous ne verrez plus le soleil demain matin. Pas de lever de soleil, c'est la nuit. Alors, on se dira, est-ce que le soleil est toujours là ou bien s'il est parti puisqu'on ne voit rien? Comment on saura qu'il est toujours là? Parce que la Terre va continuer à tourner autour. Ça ne changera rien au mouvement de la Terre. On le verra par le mouvement des constellations. Donc, un trou noir, c'est un astre qui est tellement compact que son champ de gravité est tellement fort que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que toutes les galaxies ont au centre un trou noir qui, dans certains cas, est très actif, non pas lui-même, on ne peut pas le voir, mais comme il bouffe, c'est une espèce d'ogre qui aspire, un aspirateur géant, et toute la matière tombe sur lui, et tombe, non pas directement, mais un peu comme quand vous élevez le bouchon dans votre baignoire, vous savez, l'eau entre en tourbillon, on appelle ça un disque d'accrétion, mais c'est l'image que vous avez, et cette matière qui s'en approche vite, vite, de plus en plus vite, eh bien, elle se réchauffe, elle devient extrêmement chaude, et elle devient extrêmement brillante, et c'est elle qui brille.
D'où cette incandescence.
Comme 1 million de fois une galaxie. Et puis, elle a des jets immenses qui s'étendent à des centaines d'années-lumière dans l'espace. C'est un phénomène d'une violence fantastique. Et c'est ça, un quasar ou un quasar.
Mais dans votre histoire, il y a un grand génie, enfin un génie avec des grandes mains. Alors oui, là, dans l'histoire de l'univers, oui. Qu'est-ce qui va provoquer ce phénomène de compression?
Oui, alors il y a deux cas. Il y a des petits trous noirs et des grands trous noirs. La famille des petits trous noirs, elle est créée par la mort de l'étoile. quand une étoile meurt,
il y a une grande explosion.
Elle perd sa lumière, sans sa chaleur. Qu'est-ce qui fait que le Soleil tient en place? Parce que le Soleil, c'est gazeux. Ce n'est pas comme la Terre, ce n'est pas solide. Normalement, la masse du Soleil devrait s'effondrer. C'est parce que le Soleil est chaud, il dégage de l'énergie, et c'est cette énergie, cette pression thermique qui le tient en place. Quand le Soleil aura épuisé ses réserves d'énergie, il va s'effondrer, et selon la masse des étoiles, le Soleil ne deviendra pas un trou noir, va devenir une naine blanche. Mais il y a plusieurs types de résidus, et les grosses étoiles, elles, deviennent des trous noirs. Ça, c'est le cas des petits trous noirs. Les grands trous noirs, ceux qui sont au centre des galaxies, c'est beaucoup plus mystérieux. On sait que c'est relié, qu'ils naissent. Maintenant, on commence à étudier les premiers objets à apparaître dans l'univers. On sait que les galaxies apparaissent très tôt, les trous noirs apparaissent très tôt, mais on ne sait pas si ce sont les galaxies qui précèdent les trous noirs, c'est la poule et l'œuf, vous savez, l'œuf et la poule. Et ça, c'est un grand sujet de discussion. Est-ce que c'est le trou noir qui provoque l'apparition des noyaux de galaxies et des galaxies, ou c'est, quel est le rôle que joue, au moment de la naissance des galaxies, le trou noir? Ça, grand débat dans toute la communauté scientifique.
Venons-en aux étoiles. Il y en a une qui, grâce à laquelle nous vivons, qui est le Soleil. Les étoiles ont une durée de vie limitée.
Oui.
Le Soleil, je crois qu'on a encore le temps de voir. Hein. Je crois que sa durée de vie est encore dans quelques milliards d'années.
Le Soleil, il a déjà 5 milliards d'années. Il en vivra encore 5 milliards à peu près, aux meilleures estimations.
Mais au début, la naissance de l'étoile, le Soleil, ça signifie, au vu de vos explications, que le Soleil était beaucoup plus gros que ce qu'il est aujourd'hui?
Absolument. C'était... Au départ, les étoiles naissent à partir des nébuleuses. Ce sont de grandes masses de gaz et de poussière, comme on en voit même à l'œil nu. Quand vous regardez la Voie lactée vers le sud, vous voyez des taches sombres, des taches brillantes. Ce sont d'immenses nébuleuses, évidemment pas solides, et qui s'effondrent sur elles-mêmes. Et c'est l'effondrement de cette matière qui les amène à se réchauffer. L'avalanche de matière amène un nuage d'abord à se fragmenter et à former des quantités d'étoiles. Et certains nuages forment jusqu'à 1 million d'étoiles différentes. Et toujours, cet effondrement s'arrête au moment où la chaleur dégagée par l'avalanche de l'effondrement est suffisante pour retenir l'étoile, pour la tenir à son volume.
Alors, en même temps qu'il y a ce phénomène de compression, si je peux me permettre cette expression, au sein de ces étoiles et donc au sein de la galaxie avec ses trous noirs, il y a aussi parallèlement l'univers en expansion.
Oui.
Alors, dans votre livre « Poussière d'étoiles », vous avez une très belle image pour nous expliquer le principe de l'univers en expansion, à savoir un mètre en métal que vous dilatez avec de la chaleur et donc qui se étend uniformément partout.
C'est ça. On imagine un mètre en métal de longueur infinie, à gauche et à droite, et on imagine qu'il est chauffé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les indications de centimètres vont s'éloigner, et ça n'implique pas du tout, on revient à la question de l'univers infini ou non. Alors, une chose est claire pour l'univers, c'est qu'il n'y a pas de centre et qu'il n'y a pas de frontière. Ça, on a la difficulté à faire passer ça, parce que les gens disent...
On n'est jamais parti d'un point précis.
Non.
L'univers a toujours été en expansion.
Oui. Les gens disent, si l'univers est en expansion, il doit être en expansion dans quelque chose. Et des images comme celle que j'utilise aussi du pudding au raisin. Vous savez, vous mettez des petits raisins dans la pâte et mettez la pâte au four et vous voyez tous les petits raisins s'éloignent les uns des autres. C'est une assez bonne image de l'expansion de l'univers. Chaque galaxie s'éloigne de ses voisines. Comme le raisin de Corinthe que vous avez mis dans votre pâte va s'éloigner de ses voisins si vous avez bien préparé votre pâte. Alors tout de suite, ça appelle l'idée, un pudding au raisin, mais le pudding au raisin, il est dans un four. Quel est le four? Il n'y a pas de four. Pas de four, le pudding au raisin, il faut essayer de l'imaginer infini, pas de centre, pas de bord. Vous voyez, c'est pas anormal que notre imagination soit un peu prise de court quand on arrive à des dimensions aussi grandes. Notre imagination, elle est habituée, s'est développée par l'évolution dans un contexte qui est à notre échelle. Et là, on arrive à des échelles tellement grandes que quelquefois, on a un peu de misère à se représenter les choses. Ça vient, il faut faire des exercices. Je recommande souvent à mes étudiants de faire 15 minutes d'exercice chaque jour pour s'habituer à ces nouvelles notions. Mais ce qui est clair, c'est que l'univers n'a pas de centre, pas de bord, pas d'extérieur, que c'est partout pareil.
Alors, je reprends votre métaphore. Vous utilisez la chaleur pour dilater votre maître en métal.
Oui.
Qu'est-ce qui provoque l'expansion de l'univers?
D'où vient cette chaleur initiale? Quelle a été l'origine? Pourquoi la question? Pourquoi l'univers initial était-il chaud? Alors là, il y a plusieurs théories qui sont présentées, qui font appel à la physique quantique, qui font appel à des énergies, à des champs scalaires. Je ne vais pas entrer dans ça parce que c'est un peu compliqué. Et de toute façon, ça reste encore assez spéculatif. On parle d'un champ scalaire, mais on n'a pu l'identifier à aucun champ. On connaît beaucoup de champs scalaires dans l'espace. On n'a pu l'identifier à aucun champ scalaire. Ça fait partie des questions. Vous savez, les scientifiques, généralement, quand ils vous parlent des choses qu'ils connaissent. Et comme ça, vous avez l'impression qu'ils savent tout. Mais c'est faux. Si vous leur demandez ce qu'ils ne savent pas et où sont les questions, vous aurez des listes de questions très grandes. Et justement, l'intérêt de la science, c'est précisément d'avoir ces questions et de progresser grâce aux observations, grâce aux théories et tout cela. Nous sommes dans un immense champ de questions.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Hubert Reeves. Dans la troisième partie de notre émission, nous parlerons peut-être de l'arrivée de l'eau sur Terre, que la Terre n'a pas toujours été une planète bleue. Et puis nous en reviendrons petit à petit à la fondation ROC.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Suite de notre émission en compagnie d'Hubert Reeves, dans cette troisième partie d'émission, Hubert Reeves, nous allons parler de l'eau. L'eau a bien sûr une histoire, puisque les molécules d'eau naissent dans les lambeaux de matière colorée éjectée des étoiles défuntes. L'eau est bien sûr sur Terre, avec nos océans, on parle bien sûr de la planète bleue. Il n'y a pas d'eau sur Mars, il n'y a pas d'eau sur notre satellite, la Lune, mais il semble aussi qu'il y ait de l'eau sur Vénus. Alors comment se fait-il que sur Vénus il y ait un petit peu d'eau, mais pas assez? Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vie possible sur Vénus alors qu'il y a une vie possible sur Terre?
Oui, je vous reprends, excusez-moi, mais Mars a beaucoup de glace. Mars a des quantités importantes de glace, on les détecte maintenant. Il faut faire la distinction entre l'eau liquide, solide et gazeuse. Dans le système solaire, il y a, à grande distance du Soleil, beaucoup de glace. Beaucoup de satellites de Jupiter sont des satellites glacés. Si vous les survolez, vous avez l'impression de survoler la banquise dans le nord. Et Vénus a de l'eau, mais comme Vénus est à 480 degrés, cette eau est en vapeur d'eau. Il n'y a pas d'eau liquide. Nous sommes pour l'instant la seule planète où on détecte de l'eau liquide. On le voit quand on est au bord de l'océan. Sur Mars, toute la question qui se discute beaucoup aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu de l'eau liquide? Alors, là aussi, il y a deux choses. Est-ce que c'est de l'eau qui est descendue en torrent? Et beaucoup d'images martiennes montrent des sortes d'ouèdes de marques sur le territoire qui laissent supposer qu'il y a eu des torrents. Mais des torrents, ce qui nous intéresse, c'est la question de la vie, bien sûr. Et on pense que pour avoir de la vie, il faut avoir ce qu'on appelle de l'eau pérenne, c'est-à-dire de l'eau qui reste longtemps, pas simplement des flux torrentueux qui disparaissent, mais que l'eau doit rester pendant peut-être des millions. Personne ne sait très bien comment la vie est apparue, mais on a vraiment l'impression que ça prend cela pour avoir de l'eau pérenne. Alors, je reviens à la Terre. La Terre est la seule planète où nous ayons à la fois de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur d'eau. Et la question est de savoir, c'est bien votre question, quelle est l'origine de l'eau sur la Terre. Alors, ce n'est pas très, très bien compris. Ce qui est clair, c'est que quand la Terre est apparue, il y a environ 4,5 milliards d'années, c'était une boule de lave incandescente. Elle faisait 2000 degrés.
Planète rouge.
La planète était en rouge, rougeoyante. Et s'il y avait de l'eau, il y avait vraisemblablement de l'eau. Cette eau était en vapeur à 2000 degrés, vous êtes en vapeur. Alors là, la Terre se refroidit progressivement et elle forme un océan et une atmosphère. Les débuts sont extrêmement tumultueux. Le solaire souffle un vent terrible qui aurait évacué l'atmosphère de la Terre et l'eau serait venue plus tard. Je vous donne les idées les plus à la mode, là, parce qu'on est beaucoup dans la discussion. Les idées les plus à la mode, c'est que l'eau que nous avons serait venue en grande partie des comètes. La Terre est continuellement bombardée de comètes, et les comètes, ce sont des masses de glace, des météorites qui en contiennent beaucoup aussi. Et c'est vraisemblablement l'origine de l'eau terrestre. L'eau terrestre vient vraisemblablement des collisions de comètes qui ont frappé la Terre depuis 4 milliards d'années. Mais c'est assez encore discuté. Toute l'origine de la Terre, les débuts de la Terre sont extrêmement difficiles à comprendre parce que dans le système solaire, à cette période, il y a eu énormément de collisions entre les différents corps. Nous savons, par exemple, on fait la meilleure théorie de l'origine de la Lune, c'est qu'elle a été obtenue par la collision de notre Terre avec une planète probablement de la dimension de Mars, qui aurait eu une collision, mais rasante, voyez, pas de front, mais gaz rasante, qui aurait éjecté une bonne partie de sa matière dans l'espace. Cette matière se serait mise en orbite autour de la Lune,
ça serait agrégé.
De la Terre, et la Terre aurait eu des anneaux, comme Saturne, pendant un certain temps. Puis cette matière se serait ensuite rassemblée et pour former la Lune. Mais ce bombardement s'est poursuivi pendant l'aile très longtemps. Le fait que dans le système solaire, il y avait partout des petits corps, des moyens corps et des grands corps, et que le premier milliard d'années, c'est les autotampons, hein, ça se frappe dans tous les sens. Et c'est à partir de ces collisions multiples que se sont formées les plus grosses planètes qui ont comme rassemblé la plupart des petits corps. Aujourd'hui, il reste encore des petits corps, il reste des astéroïdes, des météorites, mais pas beaucoup. La plupart de ceux qui avaient des orbites qui pouvaient rencontrer les planètes ont été absorbés par les planètes. De sorte que le Soleil, le système solaire, a comme fait son ménage. Aujourd'hui, nous avons relativement peu de collisions. Pourquoi? Parce que les planètes qui restent sont des planètes qui ont des orbites très sages, qui sont circulaires autour du Soleil et qui n'ont pas beaucoup de chances d'entrer en collision. Encore que nous avons... Comme vous savez, notre planète a été frappée par une météorite géante il y a 65 millions d'années. Météorite qu'on a retrouvée dans le golfe du Mexique. Météorite qui devait être grosse comme le Mont Blanc et qui serait responsable de la disparition, des dinosaures.
Nous avions la tête dans les étoiles. On va redescendre un peu. On va redescendre sur la planète Terre. Oui. Dans votre ouvrage, donc Poussière d'étoiles, vous accordez une grande part à l'eau, à l'origine de la vie et donc bien sûr de la biodiversité. Pourquoi, l'astrophysicien que vous êtes, vous vous êtes intéressé à la biodiversité?
Oui, donc, parce vos que cela est venu. Je n'en parlais pas quand j'ai commencé à faire mes conférences dans les années 60 parce que ce n'était pas un sujet important. L'importance des menaces que fait peser l'espèce humaine sur la planète a commencé à se prendre de l'importance dans les années 80, 85, 90. Et on a la question du réchauffement climatique et la question de la disparition des espèces par la pollution, par les pesticides et tout cela, a pris de l'importance dans ces années-là. Et j'ai commencé à penser qu'il fallait un peu revenir sur Terre et s'occuper de ce qui se passait sur Terre. Souvent, les gens me disent « Ah, dans le passé, vous nous faisiez rêver en nous parlant des étoiles et maintenant, vous nous rappelez des choses dures. » Je dis « Mais il faut bien revenir sur la Terre et voir ce qui se passe. » Et nous sommes en train d'accumuler sur nous des menaces extrêmement importantes qu'il faudra rencontrer. Et c'est tout le problème de l'écologie, de l'environnement, qui fait qu'aujourd'hui, il s'agit de menaces qui ne sont pas à l'échelle de millions d'années comme les prochaines collisions de météorites, mais à l'échelle de quelques décennies. Et on le voit, et heureusement, dans le fait que ce sujet de l'environnement et maintenant, depuis 2 ou 3 ans, moi, je suis très content des développements des événements depuis 2 ou 3 ans. On voit qu'il se fait une conscientisation qu'un peu partout, les gens en ont pris conscience. Le film d'Al Gore, le film de Home, d'Arthur Bertrand, le film les œuvres de Nicolas Hulot, tout ça ont montré que nous sommes dans une période vraiment très critique et que, par exemple, ce qui va se décider en décembre à Copenhague, c'est-à-dire comment on va arrêter l'émission de gaz carbonique va jouer un rôle capital pour l'humanité pour les siècles à venir. Nous savons combien nous avons émis de gaz carbonique, environ 500 milliards de tonnes. Nous savons que si nous doublons cette quantité, la température peut augmenter de 2 degrés. Et 2 degrés, c'est une déstabilisation des climats qui fait que des canicules comme 2003, ça deviendra romantique, et Katrina aussi. Nous allons vers une période de déstabilisation des climats qui pourrait être très grave si nous n'arrivons pas à freiner le réchauffement. Et ce qu'on découvre aussi, et c'est pour ça que dans cette ligue dont je suis le président, c'est qu'il y a un élément qui est moins connu, le réchauffement, maintenant tout le monde en prend connaissance, mais un des éléments les plus graves et les moins connus, c'est le fait que nous éliminons chaque année, éliminons jusqu'au dernier des centaines et des milliers d'espèces vivantes, et ce n'est pas simplement le tigre du Bengale ou des espèces emblématiques, ce sont les papillons, des oiseaux, des vers de terre et tous ces éléments qui nous rendent, qui sont indispensables pour la fertilisation des sols, que nous nous mettons en danger parce que nous sommes reliés à l'ensemble de la vie sur la Terre et que nous avons un rôle extrêmement dévastateur sur l'ensemble de la vie sur la Terre.
Donc je redonne le nom de votre ligue, c'est la ligue ROC.
ROC, pour la préservation de la faune sauvage, voilà. C'est ça qui est, c'est ce que nous avons, c'est pas le seul problème, mais c'est celui que nous avons choisi de faire connaître.
Pour terminer cette émission, Hubert Reeves, vous le savez même mieux que moi, on va fêter donc le 20 juillet 2009 les 40 ans de la conquête de la Lune par Neil Armstrong. J'imagine que vous avez des souvenirs. Alors vous n'étiez plus à la NASA à ce moment-là, vous étiez déjà
en France. Non, j'étais maintenant en Europe. Je vous dirais, je préfère le mot exploration de la Lune.
Exploration de la Lune.
J'aime pas beaucoup le mot conquête, il fait un peu guerrier, ce n'est pas la... Le but. Mais effectivement, je me souviens, j'étais avec mes enfants au Canada à ce moment-là, 1969, et ça, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, cette exploration, ce débarquement sur la Lune. D'ailleurs, on parle ces jours-ci d'y retourner pour préparer, les Américains parlent de préparer les départs vers Mars et d'autres planètes. C'est très excitant.
Vous n'avez jamais eu envie de remplacer Neil Armstrong?
Mais moi, j'irais tout de suite. Si on me le proposait, j'irais tout de suite faire le tour de la Lune. Mais je crains qu'on ne me le propose pas. Mais si quelqu'un veut me le proposer, je suis tout prêt.
Merci, Hubert Reeves. Je redonne le titre de votre ouvrage, qui est une réédition. Poussière d'étoiles, paru initialement en 1984 et donc réédité en septembre 2008 aux éditions du Seuil. Et puis, bien sûr, on pourrait citer de nombreux autres ouvrages que vous avez publiés. Vous êtes très prolixe, toujours dans le cadre de la vulgarisation scientifique et notamment de votre discipline qui est l'astronomie. Merci, Hubert Reeves. Et puis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine émission.
Merci de votre invitation.